toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 7 avril 2026. Vous écoutez le 17e épisode de la saison 9 de Sneak On Air. Sneak On Air, la première et la seule émission 100% sneakers au monde de la FM. Animée par toute l'équipe de Sneakers Empire, qui met de la culture dans tes baskets. You will not be able to change the channel.
Money's gotta be the shoes.
Shoes,
shoes,
shoes.
You sure it's not the shoes?
Do you know, do you know, do you know?
Yeah, 1, 2, 1, 2.
Yeah. You know how I do.
Yeah. Yo, what up? This is A1. And I'm chillin' on Sneak On Air, man. It's the one and only radio show 100% talking about sneakers in the world, hosted by Sneakers Empire. Every Tuesday, 8 p.m. to 9 p.m. on RBS 91.9 FM. Chill, don't sleep.
That's right.
Look, Mom, I can fly.
Yo, man, your Jordans are fucked up.
Sneak On Air, épisode 7, saison 9. Aujourd'hui, dans Sneak On Air, on ne parle pas de cuir retourné ou de mèche, mais de lignes de code. L'intelligence artificielle s'invite dans nos placards. Est-ce qu'on est sur un banger technologique ou sur une perte totale d'identité ? On décortique ça, on décortique l'impact de l'IA sur le design, l'industrie et la chasse au fake. Avec une invitée exceptionnelle ce soir, Pauline Streisel, footwear designer, designeuse de chez Adidas, qui sera avec nous. Alors à toutes et à tous, bienvenue dans ce 17e EP de la saison 9 de Sneak On Air. Au programme, notre traditionnel, qu'est-ce que tu portes ce soir ? Info actuelle autour de la basket, les sorties sélectionnées de la semaine et nous aurons notre thème autour de l'intelligence artificielle. Va-t-elle révolutionner le design des baskets ? Cette émission ne serait rien sans tous nos poteaux, sans tous nos acolytes. Ils sont là, il a retrouvé sa place, il est en même temps sur son téléphone, concentré derrière ses lunettes de soleil. C'est l'homme multi-blaze, Jimmy Bones, Funky P, Manu est dans la place.
Ouais.
Ça va Manu, t'as la forme ?
Écoute, il faut avoir la forme, donc je l'ai.
Super, ça va très très bien, on a une grosse émission, je vous propose d'enchaîner. Il fait son retour, ça fait 15 jours, voire un peu plus que vous ne l'avez pas entendu derrière le mic, c'est Gislin est dans la place. Salut Gis.
Salut.
Tu vas bien ?
Ah ouais, carrément, ça fait du bien d'être de retour.
C'est cool, hein ?
Ouais.
Je te laisse partager ton micro avec Pauline. Salut Pauline, comment ça va ?
Salut, ça va, et toi ?
Très bien, super, t'as la forme ?
Ouais, j'ai la forme, c'est trop cool de participer.
Bah, merci de ton message, t'es toujours enthousiaste pour venir et on adore être avec toi aux émissions. Il est dans la place, c'est le roi de la night strasbourgeoise et même dans le Grand Est.
Pas du tout.
C'est Krish qui est dans la place.
Salut,
ça va Krish ?
Ouais, ça va et toi ?
Bah ouais, t'as la forme ?
Ça va.
Ça va. Et ils sont là, ils sont derrière. C'est grâce à lui que vous pouvez nous retrouver en live sur Sneaker 67 Empire sur Instagram. C'est lancé. On dit coucou à la caméra,
coucou
mais bien sûr,
caméra.
On n'oublie
chat.
Pas. Ça reste une émission de radio. On est là pour vous sur le 411.9 FM pour ceux qui nous écoutent ou sur l'appli radio RB, enfin l'appli
Strastv
et www.radio-rbs.com et vous l'avez reconnu, c'est notre ami Chauve, Raph est dans la place.
Écoute, ça fait plaisir, sachant qu'on vient de balancer le réel pour avoir le lieu de la prochaine RBS Party.
Oh.
Donc regardez Insta.
C'est où la prochaine RBS Party ?
Regardez Insta. Ouais. Vous regardez Insta. Vous likez, vous partagez la vidéo, vous commentez et vous prévenez vos parents.
Et vous venez.
Voilà.
Donc vous pouvez.
Et après, vous revenez sur le live de Sneak On Air.
Exactement. Wow. Exactement. Et bientôt la billetterie. Il revient de loin, de voyage. Il est allé faire son curateur, le curateur du street art. Et dans la place, notre designer aussi de l'assaut, c'est Seb Sneaker. C'est dans la place. Salut Seb.
Salut Alex, salut tout le monde.
T'as la forme ?
La forme. Très heureux d'être parmi vous dans le nouveau studio.
Alors, il te plaît ?
Surprise. Très très cool, franchement. Très agréable et et la déco est sympathique.
C'est sympa, hein, on remercie beaucoup les salariés et tous ceux qui ont contribué à cela. C'est notre homme, c'est le poète de la sneakers, recruté par Sneakers Empire. Il n'y en a qu'un, il est à Strasbourg, il écrit en français, vous allez découvrir ça tout de suite dans le Qu'est-ce qu'on porte dans quelques instants. C'est Denis, salut Denis.
Salut tout le monde.
T'as la forme?
Écoute, j'ai la pleine forme, je suis en train de regarder le réel pour savoir où se trouve la soirée RBS.
Ouais, et ben regarde ça, tu spoil pas, hein.
Non, je dis rien.
Allez, t'as le temps de regarder parce qu'on va pas attaquer par toi pour le Qu'est-ce qu'on porte. Jaime, tu veux dire bonjour? C'est lui qui fait vivre la story. Et bientôt, suivez la story, il y a des surprises qui arrivent. Ça va, Jaime?
Ouais, ça va, merci à toi.
Bah ouais, t'as la forme?
Ça va, je te remercie. J'aime bien manger chez Tsatsi, Strasbourg.
Eh ben, on fait belle de la adresse. Pub, allez. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio. Krish, t'es venu chaussé de quoi?
Une Nike Footscape. Donc, que j'ai eu la chance de choper à 57 euros.
Chez Kiss. Sold Kiss, hein.
Chez Kiss, ouais.
C'était ouf ces soldes.
Écoute, ils ont mis. C'était quand? C'était avant les Black Friday, je crois, ou avant les soldes?
Avant les soldes de cet été plutôt, non?
Ouais, je sais plus. En tout cas, ils avaient fracassé des prix.
Fracasse.
Dont la Jordan 1.
Reimagined?
Ouais, exactement, à 57 balles. Enfin, il y a trop de paires qui étaient parties à 57 euros. Donc, je me suis pris le plaisir avec la Footscape.
Et le confort?
Bah, justement, en fait, j'avais acheté une première Footscape, pareil en solde, je sais plus sur quel site. Et très surpris par le confort. Elle est vraiment top. Donc voilà.
Et bah super. Allez, Pauline, est-ce que tu veux partager ce que tu portes?
Ouais, aujourd'hui je porte la chaussure que j'ai créée en fait moi-même en running.
Ah oui.
Pardon.
La Supernova Prima. Bah ouais. Vu que j'aime courir, hein, j'emmène que ça quand je pars en voyage.
Eh bah écoute, ça fait du lifestyle et ça te permet de courir avec.
Voilà.
Alors ça fait quoi de porter sa propre chaussure?
Cool.
Bon, elle est comme tous les designers qu'on fréquente, on embrasse très fort Jacques Chassin, pleine de modestie. C'est dur d'assumer tout ça, mais franchement, ça doit être sympa, au moins on est sûr d'être bien chaussé.
Ouais, voilà.
Magnifique. Mmh. Écoute, à découvrir ça dans la story de Jaime ou pourquoi pas à la caméra. Tu veux rajouter un truc? Tu veux demander à... Bien sûr, on va demander à Chauve ce qu'il porte.
Allez, moi ce soir je porte, vu qu'il fait beau, hein, j'en profite, je sors un peu les belles paires, une Air Max Curry, la Air Max One Curry, que voilà, j'aime beaucoup à sortir avec mon pull Carhartt.
J'allais le dire.
Voilà, pour ce soir. Et ceux qui veulent voir dans le live, j'enlève le pied après, mais pour les odeurs, je vais me décaler.
J'ai décalé, mais ça, voilà, il y a l'image, il y a le son, mais il n'y a pas les odeurs, c'est la suite de l'IA.
Et à cela, vous rajoutez le bruit et l'odeur.
Voilà.
Merci Callaghan.
Mr. Callaghan. Ghislain, tu portes quoi aujourd'hui?
Yes, aujourd'hui je porte une paire que je voulais depuis un peu longtemps. Une paire de Converse Chuck Taylor All-Star Full Laser Monochrome. En fait, c'est une All-Star toute blanche, entièrement blanche et entièrement en cuir.
Il a annoncé ça comme un Ready to Rumble.
Ouais.
All-Star.
Est-ce que tu crois que c'est la All-Star 2.0?
Yes, I take it easy.
2.0, t'es confort dans la semelle?
Ouais, en fait, je me rends compte là, comme je tente des marques un peu différentes de Nike, que je crois que je préfère les semelles plates. Parce que pareil, dans les Vans, je suis vachement bien. Dans ces Converse, je suis vachement bien. Et bon, après, la Air Jordan 1 reste comme une semelle assez plate.
Bah, c'est plat.
Donc, ouais.
Et Denis, direct dans une Stan Smith, tu serais très bien aussi.
Bah, je pense. Peut-être une prochaine paire que j'achèterai d'ailleurs.
Bah, ouais, il faut full white.
Et encore dédicace à Oppenheim, pareil.
Bon prix.
50 balles, je crois, quelque chose comme ça, quoi.
Et donc Converse a été racheté il y a quelques années par Nike, hein, ça appartient à Nike, et ils avaient retravaillé la semelle, ça se voit pas, mais elle est beaucoup plus confort. Est-ce que... Non, on va attendre pour Denis le meilleur pour la fin, évidemment. Manu, tu nous as dit avec quoi t'étais venu?
Le meilleur pour la fin, mais en fait t'as raison. Moi j'ai une Skyforce Low 88 en collab avec le groupe japonais, enfin le groupe de reggae japonais qui s'appelle Mighty Crown, donc c'est une paire qui est sortie quoi en 2011. Voilà.
Bah, je crois que 2000. C'est la première fois que je te vois avec.
Ah ouais?
Ouais.
Elle est solide de ouf. C'est limite un de mes beaters, mais c'est un beater que je conserve maintenant parce que voilà. Et il y a plein de 3M dessus, ce qui fait que la nuit, ça se trouve, on peut croire que je suis un crocodile.
Classe.
Voilà, parce qu'il y a plein de crocodilances luminescence.
C'est clair. Dessus. Magnifique. À retrouver dans la story. Seb, tu portes quoi?
Alors ce soir, je porte une Adidas Superstar triple collab.
Rien que ça.
Entre Bape, Clot et Adidas.
Et Adidas.
Et c'est une paire, comment dire, comment la décrire?
C'est un peu...
C'est
une superstar
un
montée
superstar
sur...
Superstar avec montée sur une base de chaussures un petit peu classe.
De souliers.
De souliers, voilà. Ouais. Avec une semelle un peu plus épaisse que d'habitude.
Elle est un peu plus épaisse, elle est crantée et surtout elle est cousue. Elle est
un petit esprit derby.
Un petit esprit derby, effectivement. Donc, très propre.
Magnifique. Très réussi. Très réussi. Et est-ce que Jaime veut partager avec nous la paire qu'il porte?
Ouais, je porte ce soir une Nike Air Max One, coloris Blue Royal, Athletic Department de 2023.
Magnifique. Et j'enchaîne avant de donner la parole à Denis. T'es prêt, Denis? Installe-toi bien. Hein. Ça mérite. Ça mérite. Et moi, je sais pas si on le voit à la caméra parce qu'elle est dans mon dos. Je porte la dernière collab de Pata sur une Air Max One. Je me rappelle plus le nom du colorway, mais il y a du crimson. Et ça va, c'est pas trop mal. Et le cuir et tout est plutôt mignon à l'avant.
T'en as attaqué des collabs
des
Pata?
Ouais, j'aime bien. Quand même, j'aime bien. Ça vaut pas la chlorophylle et toutes les originelles, mais
attends,
c'est pas mal.
C'est un peu violet pastel ou c'est la lumière juste qui me donne...
C'est la lumière. Okay. C'est orange, c'est un orange un peu pétant. Et...
Non, le blanc, là. C'est
le blanc, il est crème. C'est une montée sur une semelle crème.
Okay.
Pour la caméra. Et voilà. Allez, on enchaîne. Denis,
allez.
Que portes-tu aujourd'hui?
Déjà, hop, comme d'hab, je la mets sur la table. Qu'on la voit bien.
Regardez sur la vidéo.
En fait, ce soir, simplement, j'ai des baskets marron avec un lapin dessus. J'aurais pu m'arrêter là, mais vous auriez été déçus. Alors, comme d'hab, j'arrive sans bruit, mais avec du fond. Au pied, une ZX. Pas là pour tourner en rond. ZX 10000, Choco As, dans le thème, couleur cacao, nuance qui t'emmène. C'est pas une paire qui crie, c'en est une qui murmure, mais quand tu la captes, t'as compris l'allure. Du marron profond comme un café serré, des textures qui parlent sans jamais bafouiller. On est sur du confort, sur de l'archive maîtrisée. Adidas dans le vrai, pas dans le déguisé. Semelle technique, ADN qui respire. C'est pas juste une basket, c'est une vibe à sentir. Les anciens savent, les nouveaux vont apprendre. La ZX, c'est pas une mode, c'est une manière de comprendre. Alors ce soir, je pose ça, tranquille, sans blaze. Mais retiens bien le nom, ZX 10000 Chocoaz.
Moi j'adore, franchement je kiffe de ouf.
Bravo, bravo.
C'est exceptionnel.
Ouais, pour ceux qui avaient le casque avec le petit fond musical là, un peu smooth et tout, franchement, ben voilà, tu vois, on découvre. On...
Et juste, c'est une édition qui était sortie pour Pâques 2021.
Ouais.
Donc voilà, avec le petit lapin derrière et toute mignonne, quand on a envie de croquer dedans.
Elle est très belle. Et un confort exceptionnel, la ZX 10000, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Je vous propose de passer à une actu dont on n'a pas parlé la semaine dernière, mais est-ce que ça annonce une tendance dont on parle depuis quelques temps? C'est Pharrell Williams qui a sorti en collaboration avec Adidas un modèle Vario Flat Either pour les fêtes de Pâques. Et là, on est vraiment sur un chausson de yoga qui est sorti début avril, où là, on va retrouver un pack avec un colorway noir, blanc avec des traits verts, bleu avec des traits blancs, où on retrouve vraiment les trois bandes Adidas sur l'avant du pied, sur une chaussure de yoga qui est assez tendance. Un esthétique, d'après les différentes sources, plutôt volontairement organique. Et là, petite liberté créative de Pharrell sur cette silhouette assez proche pour ceux qui ont connu des Adidas Tai Chi et des choses comme ça. Et on est beaucoup, beaucoup sur cette tendance qui se renforce du low profile, silhouette très minimaliste. Base épurée avec un textile souple qui va envelopper le pied. Et on retrouve les trois bandes à l'avant. J'aimerais que vous partagiez votre avis. Alors pour moi, c'est une chaussure totalement féminine, sans doute très bien adaptée à la pratique du yoga. Par contre, moi, je trouve ça pas très réussi. On n'a pas de lacets, on est sur un système de scratch un peu croisé. Bon, c'est original, mais moi, ça me parle pas.
Bah, à main levée, qui fait du yoga? Voilà, on peut passer à autre chose.
Allez, après surtout le yoga, techniquement, on peut en faire pieds nus. Hein, donc,
j'ai juste quelque chose à dire dessus. Déjà, c'est Pharrell, donc la démarche éco-responsable, elle est bien. Mais surtout, on voit bien qu'il mise sur la tendance du flat.
Ouais.
Tu vois,
low profile.
Ouais, du low profile. Et c'est juste pour faire un petit rappel sur Puma, Rappelez-vous, il y a la semaine dernière ou il y a deux semaines, on a parlé qui relançait les compensés, super talent. Et après, on se demande pourquoi Puma
n'est pas dedans.
N'est plus mieux, après.
Mais ils ont relancé la Speed Cat en classique l'année dernière et ça n'a pas bien pris, quoi.
La blanche et verte, là, elle est quand même jolie.
Très bonne réflexion de Pauline. On fait du yoga pieds nus. Voilà.
Mais pour aller au yoga. Allez, toi, ça te parle comment, ce type de paire?
Visuellement, je pense que je ne la porterai pas. Mais je sais que j'avais vu la outsole, j'étais en train d'essayer de la chercher. Elle est pas mal, le design de la outsole. Il est même plus impactant, je trouve, que le
Donc
dessus.
La semelle de contact, j'ai pas la photo.
La semelle de contact, elle était. Il faudrait que je la retrouve et que j'apprenne.
On va regarder ça, quoi.
Mais c'est assez simple. Ça fait presque chausson de à l'intérieur, chausson intérieur.
Oui, et
moi c'est exactement ça, comme ça que je la voyais encore. Hein. C'est pour moi, c'est pas une chaussure du yoga, c'est quelque chose dans l'air du comfy wear en mode posé. Ça, franchement, des petits chaussons pour la maison. Oui.
Alors pour la maison, pourquoi pas. Ça me fait penser et mon idée est pas. Oui, aux petits chaussons de gymnastique que t'étais obligé d'acheter avec un petit élastique en haut. Ça vous va?
Mais ça fait aussi un peu bobsleigh, je sais pas. Genre, tu sais, genre. Ils ont genre ces trois bandes en diagonale avec un upper genre assez simple, tu sais.
Ouais, je vois.
Donc, je sais pas, ça me fait un peu penser à ça.
Ouais, chaussures d'enfant. Exactement. Bah, retrouvé dans notre story, c'est Pharrell qui a lancé ça le 4 avril. Je sais pas si ça marche des masses, mais.
De toute façon, ça va pas être produit en
très grande quantité, non. Je pense pas. Mais c'est quand même à l'opposé de la Gelfish qu'il a sorti il y a quelques mois. Qu'on retrouve un peu restocké, qui là était en hyper dad shoes, c'est le grand écart.
Surtout, je me pose une question, pourquoi Pharrell et le yoga en fait? C'est quoi le rapport entre les deux?
Je pense juste que Pharrell il se laisse de la liberté en fait.
Ouais, mais c'est pareil, moi si on me propose de designer une chaussure qu'on me laisse de la liberté, je vais pas me mettre sur. Du croquet par
et
exemple, parce que du cricket, tu vois, parce que je connais pas, tu vois.
Ouais, après, je pense que
après,
c'est.
Désolé, je t'ai interrompu.
Vas-y.
Mais Pharrell, il est quand même vachement dans tout ce qui est bien-être, etc. Il a quand même lancé sa marque de cosmétiques, là, Human Race, ouais. Ou Human Care, je sais plus. Enfin, bref.
Je pense Care, parce que Race, c'était sur les fringues.
C'était sur les pompes, ouais. Mais c'est je crois qu'il a repris le. Enfin, bref, Human quelque chose. Et puis ça a du sens, tu vois, quand tu vois que le mec il vieillit pas, tu te dis qu'il a un état d'esprit sain, une routine qui est saine. Donc Pharrell qui me parle de yoga, ça me choque pas, tu vois.
Ouais,
alors même si
ça,
je le vois pas en faire, parce qu'il a pas l'air d'être beaucoup mobile le bonhomme, mais tu te dis, il y a du sens. Enfin, moi c'est ce que je me dis.
Ouais, je pense que ça a du sens ce que tu dis.
J'espère bien.
On prend. Bah, moi, ça me va très bien. Je vous propose de partir sur les baskets. On en a sélectionné 3 qui sortent cette semaine. La première, je ne sais pas trop quoi en penser. Ah. Il s'agit d'une Superstar 2, Hazy Orange, en collaboration avec L-Star. Ça sort le 10 avril. Et là, L-Star, c'est un collectif qui a mêlé un petit peu une ambiance cartoon sur une paire avec une semelle translucide orange, semelle intermédiaire orange, upper orange, et on va retrouver comme des flammes qui sortent des bandes sur le côté qui seront argentées. Je trouve qu'on a une languette assez chunky, assez épaisse, qui est très tirée vers le skateboard. On a quelques coutures au niveau de la protection du talon, un peu comme ce que vous pourriez voir en dessous d'une Stan Smith, et un petit logo Adidas en trèfle à l'arrière de la basket qui dépasse. On a des petits motifs griffonnés qui ressemblent à des flammes, à des tags sur l'avant de la basket, et avec ce message coexiste qui apporte une petite touche pour justement la coexistence des uns et des autres. Il y a d'autres colorways qui sortent. J'ai choisi ce orange pâle. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Alors au début j'aime pas, et là je regarde, ça modernise un peu la paire. On va demander aux puristes.
Alors juste un petit rappel sur L-Star. L-Star, c'est une marque qui s'est fait un peu connaître sur le mélange de l'ombre et de la lumière. Donc ça veut dire des sapes un peu sombres, mais avec des méchages assez flashy. Et là, je trouve qu'ils ont... je la trouve très jolie, sauf sur la construction de la chaussure, les petites flammes qui ont été rajoutées sur le côté. Ils ont passé une vieille couture qui coupe les bandes.
Ouais.
Et du coup, alors je me dis, ça c'est une chaussure qui a été prise pour, en plus pour la photo, qui est une chaussure qui est censée se louper là sur la couture.
Ça fait moche.
Ça fait moche.
Ça fait moche.
Tout ce qui est volute de fumée derrière, Ils auraient fait uniquement ça, ça aurait été juste magnifique avec les bandes argentées, c'est top. J'adore le petit logo, la petite étiquette derrière, vert un peu comme ça derrière.
Ouais, vert jaune.
Et la semelle pas transparente.
Vert lime.
Pour moi, c'est joli. Ils ont juste merdé avec les flashs.
J'aime bien le petit tag à l'avant.
Le tag coexiste.
Ouais, exactement.
Oui, non, ça c'est bien. Mais c'est juste les flammes rajoutées. Alors, je sais pas si c'est du plastique, je sais pas
ouais,
si.
Ouais, je pense.
Je pense qu'il y en a qu'un qui sait faire des flammes sur les côtés.
Exactement. C'est Jeremy Scott.
C'est Jeremy Scott.
Exactement.
Voilà, là, ça fait un peu Flash McQueen, quoi.
J'aime bien. Donc, merci d'avoir partagé ça. Seb, tu veux réagir là-dessus ?
Non, ouais, c'est. Je rejoins totalement Denis. Les petites flammes, elles sont un petit peu en trop, puisque on a le dessin. Avec les flammes en noir. Et on a les. Elles sont verticales et là on a des flammes horizontales qui viennent couper. Il n'y a pas trop de
cohérence dans.
De cohérence. Et après, oui, si tu veux mettre des flammes, tu prends en 3D comme là c'est Jeremy Scott.
C'est pas faux.
Après, là on parlait de la version orange, mais Jamie vient de nous montrer, ils ont une version noire aussi. Qui est plus intéressante parce qu'elle est complètement noire avec plein d'accents orange fluo, orange construction là. Et c'est vrai que le petit défaut de couture là qui coupe les trois bandes sur la version noire, on voit que les trois bandes sont éraflées. Donc les deux pièces ensemble, ça a plus de sens que sur la chaussure qui est orange où les bandes d'Adidas restent argentées clean, on va dire quoi. Donc en vrai, la noire est plus intéressante, je dirais.
Très bien.
Même le lassage est différent sur la noire, j'ai l'impression.
Ça, il y a des tutos de lassage tous les jours, j'en ai sur Instagram. Pauline, toi, ça te parle comment, ce type de produit ? Parce que toi, t'es très orienté au running pour la performance.
Oui, c'est parfait.
Ça t'éclaterait d'avoir un projet comme ça ?
Non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Le défaut de couture que tu vois, ça me stresserait un peu.
Ouais ?
Tu vois, ouais.
Alors, est-ce que c'est sur
Après,
la photo ? Est-ce que c'est sur le modèle ?
C'est une question de style.
Apparemment, en tout cas, sur les photos d'Instagram, c'est pas un défaut de couture. C'est vraiment un effet de style.
Je pense que pour nous, on le voit ça comme un défaut. Mais Pauline, genre travailler sur un basique Adidas, ça te.
Je pense que je préfère la perf et qu'il faut réfléchir, okay. Tu vois, et un peu se casser la tête, genre comment tu réalises et.
Ouais,
je pense quand tu travailles sur des collabs, je sais pas à quel point en tant que designer versus l'input que tu reçois de la collaboration, tu vois comment ça fonctionne.
Ouais, et t'es surtout sur un impact style et lifestyle de la paire, alors que toi, ta première réflexion, c'est améliorer la performance du coureur.
Ouais. Après, pourquoi pas un jour ?
Va savoir. On va en parler après avec l'IA. Elle fait couler, je vous propose de passer à la suivante, pas mal d'encre parce qu'elle est sortie en version mule. Je parlais de la Mind One de chez Nike et là va avoir pas mal de restock et surtout la sortie de cette Mind 02 qui reprend le même principe de la première slide, à savoir une semelle avec un impact un peu comment on appelle ça, tu sais, les massages de la voûte plantaire à des endroits spécifiques.
Les massages shiatsu,
merci. Avec une semelle un peu inspirée shiatsu qui va appuyer sur les bons endroits du pied pour nous aider à mieux réfléchir. C'est le principe de la Mind. Et là, elle n'est pas du tout en slip-on. Elle est vraiment avec un upper que tu peux lacer. Et donc, ça en devient presque une vraie chaussure. J'ai choisi le coloris Black Hyper Crimson. Et ça fait partie de cette nouvelle gamme. Ça se revend déjà un peu plus cher sur StockX. Et je vous avoue, mis à part pour traîner un peu à la maison, mais à 90, 110 balles, 140 balles le modèle à lacet, je trouve que ça fait un peu cher. Et alors, est-ce qu'il y a un segment là-dessus sur le bien-être, le corps, l'esprit, peut-être beaucoup chez des sportifs et tout ça. Il y a un truc, mais celle-là, je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez partager votre avis.
Je sais pas s'il y a un truc. Mon fils m'a demandé de lui acheter pour le bac.
Ok, la version lacée ou pas lacée ?
Non, pas lacée, il pense juste que psychologiquement il aura peut-être plus de chances d'avoir son bac. Non, il aura son bac, c'est pas le souci, mais tu vois.
Il t'a
demandé. Il va passer de la mention bien à très
bac,
bien.
Pas en récompense du bac.
Pour la passer, pour aller au bac.
Ils sont malins.
Tu vois ? Donc, mais c'est intéressant parce que je me suis foutu ta gueule, mais au final, le marketing derrière tout ça et par rapport à la connerie qui me sort, bah, finalement, je me dis que tu vois,
ça marche.
Ça a marché quoi. C'est cool. Mais non, sinon, le modèle là, je peux pas grand chose à dire. Enfin, J'ai du mal à voir.
Bah, c'est une basket un peu classique avec juste la sole qui est différente, quoi.
Après, peut-être que les sportifs, voilà, pour l'avant-match, ils vont peut-être la mettre.
Ça s'essouffle un peu chez Nike. Hein.
Mais tout s'essouffle chez Nike. Donc, mais bon, bref. On devait pas aller plus vite sur les actus ?
Bon, on est allé vite là.
Ah ouais ? C'est toi qui parles là.
On est allé vite. On est allé vite. Juste Apolline, tu crois qu'il y a un vrai segment sur le bien-être et la chaussure, travailler ton esprit, ton corps, avant, après l'entraînement et des choses comme ça ?
Je pense qu'il y aura un segment dans le post-recovery.
Ok, vois, pour la récupération,
avant la course,
je traduis.
Après, quand tu mets des chaussures peut-être un peu plus dures, t'as peut-être envie de quelque chose de plus confort.
Ok.
Mais je le verrai pas en fermé, je le verrai en slip-on.
Ben, c'est la première version. Ouais, c'est la première version. Ça vous va, les amis ?
Après, pour recover, c'est pas plus logique, encore une fois, d'être pieds nus ?
Ça, je suis pas sûr. Parce que, tu vois, par exemple, je pense que tu peux garder pour récupérer après le footing ta chaussette de contention. Je pense que l'enlever tout de suite après, tu peux la garder, tu vois, pour aider le flux à remonter et des choses comme ça. Donc non, le pied nu, je suis pas certain. Je suis sûr qu'on peut apporter des plus au corps humain avec bon, c'est pas tout à fait une technologie, mais juste serrer le mollet et permettre au sang de mieux circuler permet de mieux récupérer.
Par contre, il y a
oui, je ne cours pas.
Non, mais il y aura toujours rien de mieux que le pied nu. Hein. C'est...
Ah, toi, tu penses ?
Bah, c'est pas que je pense, c'est que quand je suis allé en Inde il y a quelques années et que j'ai demandé aux Indiens pourquoi en fait ils marchaient pieds nus, parce que c'était pas économique, parce que la personne en fait qui marchait pieds nus, elle avait de quoi s'acheter des chaussures. Et effectivement, c'est beaucoup mieux pour ton corps, pour ta voûte plantaire, de marcher pieds nus, parce que tu stimules en fait des points qui sont sous tes pieds, qui sont liés à ta dentition, ton cerveau, ton foie, ton machin. Donc quand tu vois des gens marcher pieds nus en Afrique ou en Asie, c'est juste qu'ils ont une autre culture et une autre approche du pied nu. Alors on trouve ça dégueulasse, machin et tout, alors que c'est un vrai intérêt en fait. Quand tu vois des gens vraiment marcher pieds nus, c'est pas juste une question de il a pas de thune pour se payer des chaussures. Rien à voir.
Mais c'est pas parce qu'on dit que c'est bien de marcher pieds nus qu'il faut pas acheter des sneakers. Hein. Continue d'acheter des sneakers.
Moi je sais que quand je suis ailleurs, tu vois, là j'étais dans un pays où il y avait du soleil, bah franchement, marcher pieds nus.
Toi, t'as pas du tout mal à la voûte plantaire ?
Pas du tout.
Manu ?
Ceux qui marchent pieds nus à Strasbourg, par contre.
Oui,
moi, il y en a un qui prend le bus en face de chez WAM, habillé tout en noir, pieds nus, il pleut, il neige, il est pieds nus. Bon. Mais en même temps, il a raison de le faire.
Alors, dans Kixology, qui est un bouquin sur la mode du running et des sneakers, il explique, tu sais, il y a eu beaucoup cette mode des footscapes où tu courais quasiment pieds nus, mais avec comme une chaussette qui te prenait les cinq orteils de tes pieds. Et il expliquait qu'au début, tu peux quand même avoir mal à la voûte plantaire parce que ton pied n'est plus habitué à marcher pieds nus. Et ils estiment à 15 jours, 3 semaines, le temps que t'aies des meilleures sensations et que t'aies plus mal aux pieds quand tu marches sur des
pieds. Se forme, quoi.
Ouais, mais il parlait pas de peau plus épaisse au niveau du talon et des choses comme ça. Non, c'est un petit film qui se crée entre ta peau et ton ressenti qui va se renforcer, qui fait que tu auras moins de problèmes. Et Raph voulait réagir.
Ah non, je voulais juste dire, les gars pieds nus, c'est devant le Auchan, hein, c'est tout. Hein.
C'était donc ta remarque. Ça vous va pour ça ? Allez, la dernière, parce que le colorway nous rappelle la 180 ultramarine. Et aujourd'hui, Nike a décidé de décliner ça sur une Air Max 95. Il y a une erreur dans mon script, ça sort le 14 au prix de 150€. Elle reprend tout le code couleur de la 180 de chez Nike, avec cet infrared qui entoure la bulle. On va retrouver du marine à l'intérieur du liner, sur la virgule, le gris, le blanc du mesh qu'on a sur la 180. Ben, je trouve que ça réussit très bien à cette Air Max 90 et moi j'aime bien, je trouve que c'est assez réussi. Je vous laisse réagir et sinon on va attaquer notre thème à 20h30. Dis-nous.
Très bien, encore une
fois. Ça marche bien.
Ouais,
hein.
Franchement, c'est propre, c'est efficace. Je te verrai bien avec.
Voilà. Ouais,
mais
faudrait que je porte ma 180 aussi déjà.
Oui. Mais non, ouais, en vrai, une belle paire, belle couleur. Ça fait. Alors, je sais pas, ça fait français.
Ça fait français.
Ouais, je trouve
ouais,
ça.
Ouais, le bleu, le blanc,
et le bleu, là, le bleu et le gris. Je sais pas, j'ai envie de l'appeler le gris parisien, tu vois, un petit peu. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
Oui, c'est trop loin là, gris parisien.
Ah bah c'est vrai, c'est le gris parisien quoi. Mais ouais, c'est sympa.
Vous avez plaisir de retrouver une Air Max 90.
Ouais.
Le shape. Moi, ça m'a fait.
Et la semaine dernière.
Vous connaissez mon amour pour Nike, mais ça m'a fait plaisir de voir ce shape.
Tu pourrais peut-être passer du côté obscur avec l'infrared qu'ils ont sorti en 3M. qui est pas mal.
Ouais, écoute, je sais pas, je passerai du côté obscur un jour ou l'autre. Hein.
On va y arriver.
Avec des Air Force que j'ai revendu une semaine après.
Ah ouais.
Mais ouais, j'ai déjà tenté, il faut que je retente.
Allez, ça vous va les amis ? Allez, on a une bonne demi-heure avec Pauline pour parler de ce thème sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le footwear design. On va parler du processus créatif et j'avais envie de commencer justement de l'idée à la boîte, enfin de l'idée ouais à la boîte de mise en rayon pour voir un petit peu comment ça se passe déjà dans la création d'une basket et comment l'IA vient influencer de là-dessus. Mais j'ai peut-être une première question d'introduction pour toi Pauline. Est-ce qu'il y avait déjà tous ces outils quand t'es arrivé à designer chez Adidas?
Je pense qu'on avait des outils d'aide,
ouais.
Qu'on n'appelait pas encore IA à l'époque. Je pense aussi même il y a 2-3 ans, j'en entendais pas tellement parler, ça commençait à venir. Mais on avait beaucoup de programmes d'aide.
Ouais, ils sont de quel type? Ils
Par
étaient
exemple,
de quel type à l'époque?
Par exemple, il y avait Pinterest, tu vois, quand tu fais la recherche d'images.
Ok.
Et quand tu cherches une image, ensuite t'as genre d'autres images qui s'associent. Ensuite, il y avait quoi encore comme outil? Après, on avait d'autres outils en 3D,
mm-hmm. 3D. Ouais. Donc ouais, la modélisation, tu faisais un dessin que tu vas pouvoir modéliser pour le voir sous
mais
différents
c'est...
angles.
Ouais. Mais je dirais les premiers, c'était Pinterest.
Ouais.
Ouais.
Ok, ouais. Donc ça pour ton processus créatif alors.
Pour le début, pour la recherche d'images au début. Ouais.
Pour la recherche. Et bien justement, c'est la première partie dont on va parler ensemble, c'est cette phase de recherche et d'idéation. Est-ce que vous voulez expliquer ce qu'est l'idéation?
Tu veux que j'explique?
Vas-y, avec plaisir.
C'est quand au début, tu reçois un brief et tu recherches un peu genre qu'est-ce qui t'inspire. Souvent, ça peut être genre dans le domaine de l'architecture, de la mode, tu regardes ce que d'autres font. Et ensuite, tu commences à collectionner des images, mais ça peut aussi être quand tu promènes et tu prends des photos de ce que tu vois. Et donc, tout ça, c'est l'idéation. Tu commences à dessiner, à créer autour de...
Ouais, tu crées, c'est ce qu'on appelle un mood board, en
voilà,
fait.
Mood board.
Des inputs
inspirations.
D'inspiration.
Et l'univers que tu veux donner à ta chaussure.
Ok. Et là, c'est plus large et on parle pas d'IA. Est-ce que toi, quand t'as un projet, c'est très libre ou t'as quand même tout de suite un cadre qui va définir dans quoi tu dois réfléchir?
Ça dépend du projet. T'en as qui sont libres et t'en as qui sont plus serrés. Souvent, quand ils sont plus libres, c'est un peu plus dur, je pense, de rentrer dedans, mais t'as plus de liberté. Et je pense que ça dépend aussi de ta perception en tant que designer, ce que tu préfères, dans quoi tu te sens le plus à l'aise.
Ok, et par exemple sur une... Toi t'as sketché des baskets de running. Est-ce que ton brief il allait jusqu'où?
Mon
qu'on
brief,
t'a donné, ouais.
Il allait... Genre les éléments que t'as besoin de mettre dans la semelle.
Ok, on dit il faut ça dans la semelle,
ouais.
Ok. Est-ce que c'est une techno? On te dit il faudra de l'EVA, il faudra du boost.
Ouais, donc tout ça c'est les éléments qu'ils mettent dans la semelle. Genre est-ce que t'as un élément dur, rigide? Est-ce que t'as un élément souple? Le côté fit au niveau du maintien de ton pied.
Ok, comment ça va emballer
Après,
le pied?
Après, souvent, ils peuvent donner des inputs au niveau du branding, du logo, ce qu'ils veulent.
D'accord.
Ils sont un peu plus visibles, moins visibles.
Ouais, d'ailleurs, on voit une évolution un peu, je trouve, dans le branding des Adidas de running, où les bandes me paraissent un peu plus larges et surtout un peu plus longues, où souvent, là, sur les EVO, si je dis pas de
Ivo
bêtises.
OSL.
Ouais, ouais. La bande, elle descend même sur la semelle.
Ouais, maintenant, ils ont commencé cette tendance.
Okay.
En fait, c'est genre, je pense, tu vois, un peu comme Apple qui ont le minimalisme.
Ouais.
Je pense qu'ils veulent créer la chaussure la plus minimaliste et tu vois de loin ce que c'est une Adidas.
Grâce aux trois bandes.
Elles vont rester.
Donc, tu disais des inputs au niveau de la semelle et sur le upper, c'est juste un style d'empeigne et comment elle doit fitter au niveau du pied.
Ouais, souvent ils peuvent préciser les matériaux, mais généralement, c'est nous les designers qui poussent un peu plus sur ce qu'on a envie, ce qu'on recherche là-dedans.
Ok. Et là-dessus, t'as un catalogue de matériaux disponibles pour Adidas?
Ouais, on travaille avec des suppliers et t'as tous les 6 mois à peu près, les suppliers qui viennent et qui nous montrent leur nouvelle connexion. Et donc, tu choisis, tu discutes avec eux, tu dis « Ah, oh, ça, c'est pas mal, j'aimerais bien créer. » Donc, c'est un peu une connexion avec les suppliers.
Tu peux expliquer un supplier?
Ah oui, un fournisseur.
Un fournisseur.
Un fournisseur, parce que, évidemment, une basket, en fait... le tissu n'appartient pas à Adidas, c'est pas forcément Adidas qui fabrique le mesh, ils vont l'acheter à un producteur de ce type de choses, et etc. C'est ça?
Souvent basé en Asie.
Oui, bah aujourd'hui c'est le monopole et c'est pas la culture, mais c'est le savoir-faire aujourd'hui et là-bas.
Ouais, mais t'as bien résumé.
C'est pas un des Bangladesh? C'est pas ça?
Non, on a plusieurs pays, on a Vietnam.
Ah oui, c'est vrai, il y a le Vietnam aussi.
Indonésie. Mmh. Bangladesh, c'est plutôt apparel, vêtements, Adidas.
Ok.
Voilà, alors je résume ce que t'as dit. Vous pouvez réagir et poser des questions à Pauline. Donc on a dit traditionnellement, en fait, le designer va faire un mood board. Il va compiler plusieurs inspirations, plusieurs images, des échantillons, des tissus, des références historiques. Et là, souvent, c'était un travail un peu de curation et qui pouvait être plus ou moins chronophage en fonction de ton inspiration. Là, l'IA m'a dit 1 à 2 semaines. Tu vas te laisser imbiber comme ça par ton projet pendant un certain temps. C'est ça. Ouais, et là, tu vas me confirmer ou pas s'il y a dit vrai. Aujourd'hui, ils disent qu'il y a des algorithmes, par exemple comme Trend Forecasting, qui est capable d'analyser sur les réseaux sociaux les données de vente pour prédire les couleurs et les formes qui seront un petit peu tendance dans les 18 prochains mois. Ça, t'es pas sûr ?
Ça, je suis pas sûr. Peut-être que c'est quelqu'un du marketing qui pourrait mieux répondre à ça.
Ouais, et justement, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que justement le marketing va te pousser aussi des inputs de cet ordre-là ?
Mais c'est souvent basé sur le marché.
Ouais.
Genre, si on voit par exemple, il y a un magasin qui vend plus de paires couleur bleue, ils vont dire qu'ils veulent une paire couleur bleue. Donc je sais pas à quel point ça...
C'est pour ça que tu vois, les Jacques Chassin de l'époque ou les Tinker Hatfield de l'époque, pour moi aujourd'hui, ils n'existent plus. Parce qu'en fait, le design est essentiellement poussé par le marketing et pas forcément par la créativité du designer. Tu vois, aujourd'hui, quand t'écoutes Jacques, comment il a designé telle ou telle paire, et tu crois que le mec, il avait le brief du marketing. Tiens, ta gueule, le marketing, tiens la paire, vends-la maintenant. Et c'est pas toi qui vas me dire comment je dois designer ou de quoi le client a besoin, tu vois. Enfin, pas le client, mais le sportif.
Ouais, on parlait un peu de cette bascule entre est-ce que c'est le marketing qui dit ce qu'il faut produire
aujourd'hui.
Ou si t'es, je sais pas, si on prend un de tes designs, toi tu restes pour la performance du sportif, mais le marketing ils t'ont poussé des choses.
Je pense que sur les footwear designers ils poussent un peu moins, mais c'est au niveau des couleurs designers.
Ok.
Ou du coup le marketing ils regardent aussi genre quel est le marché Nord-Amérique, le marché Europe, parce que les couleurs ils sont vachement différents entre ce que les gens ils recherchent.
Et après le marketing aussi il va travailler sur une segmentation, par exemple. Tu vois, sur un price point. Donc, ouais. On a des chaussures à 200 euros, on a des chaussures à 120. Du coup, sur la catégorie 160, on n'est pas là. Donc, il faut créer une chaussure à 160 balles. Et finalement, le designer, il va faire en fonction de ça, tu vois. Il ne faut pas que la chaussure soit à plus de 200. Il faut combler le creux entre le 200 et le 100. Mais du coup, tu vois, c'est pas la façon de créer ta basket, elle est en fonction finalement d'un prix. Et pas d'une nécessité pour le consommateur, tu vois.
Mais du coup, les différences de coût entre une paire à 110, 160, 200, pour le designer, est-ce que c'est quoi ce qui va définir ? C'est la qualité des matériaux ? Parce que la technologie, dans tous les cas, elle coûte, peu importe le... Mais c'est quoi qui va faire la différence ?
T'as la qualité des matériaux, des foams, t'as les foams genre plus élevés, moins élevés au niveau des tarifs.
Ok, d'accord.
Et les matières aussi que tu utilises, et aussi la manière dont tu construis ta semelle. Aussi le upper, tu vois. Si c'est des éléments cousus l'un sur l'autre, ce sera moins cher si tu fais une construction interne, stitch and turn.
Okay,
il y a certains types de construction qui sont plus chers que d'autres.
D'accord.
Donc stitch and turn, c'est la façon dont est plié le upper, le dessus de la chaussure, pour être stitché, donc cousu à la semelle.
Ouais.
En exemple.
Tu vois, après, la semelle Goodyear, c'était une façon de coudre spécifique. Pauline ?
Après, il y a aussi l'endroit où c'est produit. Ça joue aussi en fonction de quel produit.
S'ils sont plus ou moins jeunes.
Et ça, t'arrives à suivre pendant l'étape de conception de ta chaussure ? T'arrives à suivre où t'en es au niveau des coûts ?
Ouais, parce qu'en fait, un FOB, quand tu reçois le brief marketing, t'as.
FOB ?
Waouh, ça, j'arrive à plus. C'est le prix de.
C'est le prix de revient du coût de ton
avant
investissement
qu'il soit
pour.
Exporté.
Ok, exactement.
Ouais. Et donc, en fait, et t'as des équipes.
Free on board, je crois
costing,
que c'est.
Je sais pas, comment on dit,
ouais, de coûts, calcul de coûts. Calcul de coûts.
Ouais, qui définissent genre avec les usines, et donc après chaque review, officielle review, ils te disent à peu près genre t'es un peu trop au-dessus.
Ok, ouais, d'accord.
Okay, fonction de la margine, il faut réajuster.
Et tu négocies avec eux alors ?
Ouais, mais des fois quand il faut que ça hit la margine, ben, il faut réduire et faire des compromis. Je sais pas si.
C'est encore une fois, hein, rien n'est piloté par l'émotion. Hein.
Ouais,
c'est
évidemment.
Financier,
c'est de l'Excel.
C'est de l'Excel, ça coûte tant. T'as 10 centimes trop, ben t'enlèves le bijou qui est là, la couture qui est là, tu la mets là, c'est tout. Hein.
Non, après tu dis qu'il n'y a rien été dirigé par l'émotion, mais t'as quand même de l'émotion, de ce que je comprends. C'est juste que l'émotion, elle est dans une boîte.
Elle est quelque part,
elle est cadrée.
Quand tu fais ton mood board, quand tu commences à sketcher, et après quand t'as une discussion avec le marketing, la finance. Et là, potentiellement, un vice-président qui te dit j'aime pas, je peux t'assurer que. Enfin, ton feeling, tu le fous dans une boîte et tu leur donnes ce qu'ils veulent. Hein. Mmh. Tu veux juste cocher la case, toucher ton bonus à la fin de l'année et voilà, tu vois. Donc,
Une fois, on avait discuté avec Jacques au tout début et il nous a expliqué que ça lui arrivait dans son garage de fabriquer des petites chaussures. Juste pour lui, avec des chutes de matériel, avec des. Est-ce que toi, t'as envie de. T'aimerais, genre, fabriquer ta paire, mais sans contrainte. Dire, j'ai une paire rêvée. J'ai une paire rêvée. Genre, j'imagine, t'as un bon IA et une machine 3D.
Ouais, ce serait cool, mais il faut.
Elle aime la contrainte, Pauline, je crois.
J'aime bien, je crois, la contrainte. C'est okay. Un peu casse-tête, surtout sur les projets en cas je travaille.
Mais tu sais que Eric Arlen, qu'on a déjà eu ici à la radio, il aimait créer sous contrainte. Okay, et qu'il a besoin d'un cadre pour faire émaner quelque chose. Et Jacques, combien de fois il nous l'a dit et raconté ici à l'antenne, on venait, ah tiens, essaye de faire un truc qui ressemblerait à ça, parce que ça marche et il faut que ce soit lifestyle. Il s'en pète, ça l'intéresse pas. Ça intéresse pas. Tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des designers coloristes. Mmh. C'est-à-dire que toi, ton travail, il s'arrête vraiment juste à la paire et tu vas pas mettre de couleur dessus ?
Ici, tu imagines le blocking, donc tu proposes quand même genre des couleurs de blocking, par exemple.
Donc blocking, on va expliquer à nos auditeurs.
Ouais.
c'est le panel de couleurs que tu vas pouvoir avoir. Hein.
Le geste, en fait, quand tu vois ta paire de loin, est-ce que tu vois...
Du jaune,
du vert, avec quel élément le plus important sur ta chaussure que tu vas après décliner en différents coloris. Et la déclinaison des coloris, c'est pas moi qui va faire plus tard.
Ok.
J'ai essayé de résumer, c'est compliqué. Hein.
Mais toi, en gros, ça veut dire quand même que tu définis à peu près l'idée de la couleur, en fait.
Oui, mais l'idée de la couleur ne sera pas la couleur finale. C'est-à-dire que si le marketing a décidé que l'histoire de la paire doit être liée à la lune...
parce qu'on est passé derrière.
Parce que machin, et du coup, tout le colorama finalement va coller.
Oui, parce que toi tu voulais du bleu et ils vont te dire non, il faut du gris.
Exactement.
Quoi.
Et tu vois, nous on avait visité donc à Erzo l'équipe couleur, parce que moi j'étais persuadé que c'était les designers qui foutaient la couleur. Et en fait, t'as une équipe constituée de X personnes qui ne travaillent uniquement sur la couleur. Et je me souvenais que j'avais discuté avec une meuf où c'était délire, mais des fois elle allait passer 3 semaines au Japon, tu vois, pour s'inspirer en fait. Donc tu vois, les couleurs, les machins, je peux dire, c'est ouf.
Moi j'ai une question, je me permets, si je peux un peu comparer aux jeux vidéo, notamment dans l'émission pour les noobs, mercredi 15, rendez-vous 20h.
T'as tout le temps l'objet d'ouvrir ça.
Non, dans les jeux vidéo, maintenant ils s'amusent de plus en plus à faire un jeu vidéo pour un public. Oui, donc ils vont vraiment tout monter, etc. etc. Est-ce que dans la sneakers, ça se fait beaucoup plus ou...
Quand tu dis finalement que...
En gros, ils vont dire le public cible, c'est les ados de 16 ans. On va faire un jeu avec des lootbox avec ça pour plaire à des ados. On va mettre une meuf en petite tenue pour les attirer. On va mettre un mode photo.
Ça va plutôt être pour les comptes, en l'occurrence. Tu sais, il y a des chaussures qui n'existent que chez Foot Locker ou que chez Courir, par exemple. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des SMU. Donc il y a une catégorie de produits qui va être designée spécifiquement pour Courir, pour Foot Locker, etc., etc. Parce qu'on sait et que les clients savent, quand je parle des clients, c'est Foot Locker et Courir, qu'ils ont besoin de telle et telle chaussure qui ressemble à tel et tel truc, à tel et tel prix pour ce type de client-là. Mais tu vois, ça ne va pas être Adidas qui va créer ça. Au départ, Adidas, ils vont créer, tu me coupes hein, si j'ai faux, mais leur ligne directrice, voilà, ce qu'ils ont imaginé pour les prochaines années, mais c'est plutôt Courir et Foot Locker par exemple qui vont dire j'ai besoin d'un truc pour telle typologie d'ado ou pour tel machin.
C'est le cas de la TN pour Foot Locker.
C'est le cas de la TN et c'est là où c'est les SMU qui vont rentrer combler finalement ce manque et qui vont être destinés à ce type de consommateur là.
Je pense que ça dépend parce que cette approche elle est plus en lifestyle. Je dirais qu'en performance on est un tout petit peu moins impacté par cette approche.
Complètement.
Ok, je vous propose d'avancer, parce qu'on a parlé que du premier point. Le deuxième, et là je pense que ça peut être très intéressant, c'est le sketching, le dessin, le design de concept. Donc traditionnellement, et toi t'as peut-être même pas trop connu, mais je pense que Jacques avait d'abord commencé à dessiner à main levée sur des pages blanches, en collant des morceaux de matériaux et des choses comme ça pour avoir un rendu un petit peu plus en relief. Et toi, tu as dû connaître la première phase Photoshop et Illustrator qui vont te permettre de vectoriser ton idée et de créer un sketch sur un profil peut-être plutôt 2D.
Je pense que j'ai quand même utilisé, tu commences toujours un peu par le sketch quand même. Ok. Au début, tu restes, mais c'est... je sais qu'à l'époque, ils avaient quand ils faisaient les plans techniques se faisaient à la main. Et c'est ça que nous, on ne fait pas du tout. Genre, tu sais, le plan de ton tooling qui dessinait à la main. Alors, parce que quand tu vas dans les usines, tu reçois une.
Donc,
une
un plan de tooling, ouais, pour expliquer
c'est
à nos auditeurs.
C'est comme un patron, en fait.
Ouais. C'est un patron à plat. Okay. Comme ta chemise, ton costard, ouais. De toutes les pièces de la... qui vont former la chaussure.
Ouais, genre le dessus, le dedans, le. Et tout ça, je pense qu'ils le faisaient à la main.
Ouais.
Et nous, là, c'est là que nous, on a les outils pour aller plus vite.
Ouais. Ok. Et cet outil va te dire l'épaisseur qu'il te faut de matériel ?
Non, l'outil ne va pas dire.
Ok.
C'est quand même à nous de réfléchir.
Très bien.
C'est qu'un aide pour communiquer après aux usines ce que tu as besoin.
Ok.
Mais ça, c'est sur la partie plan technique, c'est pas la partie création.
C'est pas la partie création.
C'est la, ouais.
Et alors, l'IA, aujourd'hui, dans cette partie création, on peut appeler ça du sketch to render. C'est de ton petit dessin à un rendu visuel sur l'ordinateur. Ça, c'est des choses, et on va quand même citer l'outil qui est viscom.ai ou newark.ai, qui sont ces premiers outils qui vont te permettre de dessiner, de gribouiller sur l'ordinateur un dessin, tu mets la photo et ça va commencer à te designer la basket.
Ouais, on utilise ces outils.
Ouais.
On les utilise, nous, plus dans la partie finale du projet, parce que tu pourrais genre commencer à dessiner dessus, mais généralement, tu as ton idée, tu la dessines à la main. Et dès que tu as ton idée, tu peux l'importer, lui dire, créer une chaussure à partir de ce dessin. Mais c'est pas je sketch en blanc dans l'outil, dans le okay. programme. Tu sketches sur l'iPad ou tu fais ton idée sur l'iPad. Et ce qui est genre très powerful sur le tool, c'est qu'il va, il a une représentation des matériaux vraiment photoréaliste.
Okay,
en fait, donc, c'est ça, c'est la photoréalité du.
Le tool, c'est l'outil. Hein.
Et est-ce ouais. que il t'imagine, il te propose la réaction des matériaux?
La réaction
sur des pliures, tu vois, sur des choses comme ça.
Ouais, oui, okay. Il est assez fort et tu pourrais même, parce que je sais que le tool, tu peux l'utiliser pour faire des animations même maintenant.
Okay.
Donc tu peux créer un dessin en 2D, une photoréalité en 3D.
Okay.
Tu peux lui dire, mets-la sur une personne qui court ou un être humain.
Qui fait du
tu peux
foot,
lui dire d'animer cette personne en mettant même des jeux de lumière. Et des... Donc c'est assez puissant.
Ouais, et ça t'apporte quoi en tant que designeuse?
Il y a différentes approches. Un, c'est la rapidité, parce qu'on attend toujours que tu sois plus rapide dans ce que tu crées. Donc ça aide à être plus rapide et à délivrer en fait des visuels plus marquants pour les marketing, pour vendre ton produit à eux.
Ah ouais. Je pense que ça t'évite des erreurs aussi.
Non, parce qu'ils font des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs. En fait, il y a des fois quand ils mettent sur des personnages, il y a une erreur de proportion.
Okay.
Et ils captent pas, donc il y a beaucoup d'erreurs encore dans l'IA.
Okay, d'accord.
Et on l'utilise souvent, mais t'as quand même besoin de retravailler après, genre sur Photoshop, tu remodifies un peu quelque chose qui était faux.
D'accord.
Ou des fois, il va te mettre un logo Adidas d'un côté, un logo Nike de l'autre, donc il y a encore des petites erreurs.
Okay, ouais.
Tu dirais que c'est pas fiable à.
À 100%. Donc,
il faut quand même avoir ton œil qui observe, surtout au niveau des proportions.
Je resitue. À la base, tu étais sur un papier et tu construisais, tu maquettais ta chaussure en collant des morceaux dessus et en essayant de créer une empeigne physique en 3D. Ça, c'était la base. Deuxième évolution, tu vas pouvoir modéliser la 3D grâce à des Photoshop, des Illustrator, ce qui va te permettre de voir la basket sous plusieurs angles. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite avec l'IA. Tu vas pouvoir mettre ton sketch, tu vas tout de suite te la mettre en 3D, il peut tout de suite la faire porter et la mettre en action, en mouvement. Et là-dessus, toi, tu vas pouvoir aussi, et c'est la deuxième partie, travailler sur les couleurs et faire évoluer les matériaux.
Exactement, parce que je pense pour les déclinaisons couleurs, c'est assez fou. Voilà. Parce qu'il va te faire genre soudainement en 2 minutes 10 déclinaisons de couleurs.
Donc troisième partie, c'est le color material finish.
Et après, on a encore d'autres outils, il n'y a pas que Viscom, tu as encore d'autres outils plus spécialisés. Et c'est pas que dans le footwear, c'est aussi appareil, c'est tous les domaines qu'ils utilisent. Donc. Mais je pense que ça aide quand t'as un petit blocage d'idées, mais il faut pas en être dépendant parce que c'est un tool, il faut investir dedans. Donc si soudainement ton investissement il s'arrête, tu es un peu coincé.
Ouais, et on en parlera peut-être en conclusion, mais il faut quand même qu'on avance parce que qu'est-ce qui restera du design, tu l'as un peu dit, en fait c'est toi qui le contrôle. Et si toi t'as pas l'œil, t'as pas la main... Et c'est compliqué de le faire aller dans la bonne direction. Parce qu'il peut aller dans toutes les directions. Et là, c'est l'humain qui va le diriger, quoi. Ok ? Ça vous va pour...
Oui,
donc,
parce que l'IA reste un outil.
C'est un
pas
outil.
L'oublier.
Donc avant, le choix des matériaux, tu vois, ça se faisait sur catalogue et des choses comme ça. L'IA va te permettre de pouvoir t'en rendre mieux compte et beaucoup plus rapidement et de le décliner quasiment à l'infini.
Pas tout à fait. Parce que juste au niveau du matériau... Tu choisis quand même encore, t'as quand même le toucher, tu cherches quand même le feeling du matériau.
J'étais à l'étape juste de la couleur.
Ah, ok. Ah oui, au niveau de la couleur.
Tu peux mettre toutes les couleurs que tu veux, quoi,
les
après.
Couleurs, ouais.
Ouais,
mais le feeling de ce que tu touches à la main, l'IA peut pas remplacer.
Ça, tu peux pas. Et ça, justement, je sais que tu pars de temps en temps en Asie. C'est ça que tu vas checker ?
Ouais, je vais checker ça. Mais aussi les constructions, comment la chaussure est faite, ouais, les matériaux.
Mais là, y a besoin de le voir en vrai pour s'en rendre compte.
Il y a besoin parce qu'au final, la manière dont les chaussures sont faites sont super manuelles. Ouais. Quand tu es allé dans les usines,
c'est opérateur dépendant.
C'est fait à la main, tout est cousu à la main. Donc.
Bien sûr. Oui, tourner pour une semelle Goodyear, en fait, il y a quelqu'un qui garde la paire en main et qui la tourne sur la piqueuse, la machine à coudre. Et c'est hyper opérateur dépendant. C'est aussi pour ça que c'est parti en Asie parce que l'opération était moins chère.
T'en penses quoi, Manu, toi ?
Il travaille. Alors, le quatrième parti, et on est pénultième, le design technique et l'ingénierie, le tech pack. On en a un peu parlé, hein, traditionnellement, on avait une création d'un plan technique pour l'usine, où là, on allait retrouver l'épaisseur, les coutures, la densité, l'épaisseur de mousse, etc. Et ben cette étape, aujourd'hui, va aller beaucoup plus vite grâce à l'IA. Et là, tu vas pouvoir générer et faire du generating design où on va pouvoir dessiner plus. On ne dessine plus la semelle, on donne des paramètres à l'IA. Tu peux donner même le poids, tu peux donner l'écartement de la foulée, est-ce qu'elle est universelle, est-ce qu'ils sont supinateurs ou pronateurs. Et l'IA va pouvoir aussi t'adapter à ça.
Ouais, on l'utilise
pas. Toi, tu l'utilises pas trop.
Je l'utilise pas trop, mais je sais qu'en basketball, avec Adidas, ils ont sorti la paire avec le upper en 3D.
Ouais.
Où l'idée, c'est aussi que tu peux justement contrôler ce que t'imprimes, adapté.
Exactement, c'est exactement ce qu'il y a dans mon texte.
Mais ça dépend, je pense, de ce que tu utilises, parce que j'ai pas trop travaillé avec ça, moi.
Voilà, et ben t'as Autodesk Fusion 360, tu l'utilises pas encore, qui pourrait...
Si, j'avais appris en cours quand j'étais étudiante, et c'était... Ouais. C'était la misère. Maintenant, avec l'IA, t'as plus besoin de faire
ça. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup.
Je pense que c'est plus pour les ingénieurs, peut-être cette partie-là.
Très bien. Et maintenant, en termes de prototype et d'échantillon. Donc, on a bien vu que ton rendu visuel était quand même beaucoup plus proche de la réalité qu'au départ. Mais avant, tu étais obligé d'envoyer tes plans en Asie, donc le tech pack dont on vient de parler, et d'attendre quelques semaines, voire quelques mois, qu'on te renvoie ton last. C'était déjà un last ?
Quand t'as un last qui est fait, ouais.
Ouais, et donc c'est le premier prototype de la chaussure.
Généralement une semaine.
Ok. Ça va vite quand même.
J'ai envoyé lundi dernier. Ouais. Genre une semaine après, tu vois déjà des photos.
Ok.
Après, t'as le temps d'envoi par avion, mais c'est assez. Et c'est pour ça qu'on va en Asie, parce que c'est beaucoup plus rapide. C'est genre un jour.
Et le lendemain tu faire
vois,
un truc.
Un jour, le lendemain. Donc... Et l'idée, tu y vas en une semaine, tu dois confirmer tes plans techniques. Donc c'est très très rapide. T'as pas le temps de réfléchir, c'est que de l'exécution.
Moi, je voudrais savoir d'un point de vue émotion. Tu vois, entre le moment où t'as fait ton sketch et au moment où tu reçois ta paire dans les mains, mais qu'est-ce qui se passe ? Dans ta tête, dans ton cœur, tu vois. Non, mais c'est vrai, t'es.
Bah, t'es content quand même, genre tu vois le travail que t'as.
Mais genre, t'envoies des photos à ta daronne et tu lui dis regarde.
Non, parce que c'est top secret.
Ah, excuse.
Mais est-ce que t'es fier du coup ?
Mais t'es fier. Non, tu peux aussi être frustré. J'ai beaucoup de frustration parce que tu sais, tu envoies et t'es là, ah, l'usine n'a pas compris ce que je voulais. Donc ça a beaucoup, genre aussi ce sentiment. Mais frustré. Mais quand tu confirmes de l'Asie et après tu reçois ta paire officielle avec les bonnes couleurs, là t'es content, tu sais, c'est comme Noël. Tu ouvres ta boîte et t'es là, waouh. Mais ça peut aller dans les deux sens, frustré, et content et frustré.
Et quand tu reçois ta paire, du moment où tu l'as dans les mains, si tu te rappelles du moment où tu l'as imaginé, elle correspond à quel pourcentage de ce que t'avais imaginé au final ?
Ça dépend. Ça dépend des usines, parce que je travaille avec différentes usines, il y en a qui comprennent mieux.
Ouais.
Où c'est plus simple, et il y en a, il faut donner beaucoup d'efforts pour qu'ils comprennent. Mais généralement, 80%.
Et est-ce qu'il y en a une fois où genre, c'était exactement ce que tu voulais ?
Ouais, il y en a une où on a réussi au Concept Review 1. Ils n'ont plus fait de changement après. Même le marketing était content, donc ça, c'était une paire.
Ah, et vous ne la voyez pas, mais ses yeux brillaient.
Bonus max. Et du coup,
c'était rare.
Et du coup, du début jusqu'à la fin, combien de temps
c'est
de l'imagination jusqu'à la... la chaîne de production, jusqu'à ce que tu donnes
21 mois. On travaille sur 21 mois. T'as 18 mois, 21 mois.
C'est court, hein, quand même.
C'est long.
C'est long.
C'est long.
C'est long. Ça veut dire que là, les paires qui
arrivent maintenant,
elles sortent dans 21 mois.
Et que pour moi, dans ma tête, je suis déjà... Quand elles sortiront, je suis là, oh, c'est vieux.
Tu vois, aujourd'hui, elle doit travailler 2028.
T'imagines la difficulté.
Oui, mais aujourd'hui, avec l'IA, mais du temps de Jacques Chassin, il mettait combien de temps à sortir une paire ?
Mais potentiellement moins de temps.
C'est vrai ?
Mais parce qu'en fait, la prise de décision à l'époque de Jacques, elle est plus rapide.
Ah ouais.
Donc tu vois, là en fait, il faut qu'elle elle soit validée par X, tu vois, personne. Là, Jacques Chassin, et connaissant le personnage à cette époque dans les années 80, il sortait de son bureau. J'ai la paire.
Okay, on l'envoie.
Ouais, et voilà, en plus,
et en 9 plus, mois, c'était terminé. À Dettwiller. Et en plus, à Dettwiller, ouais, il bricolait tout de suite.
Mais ça dépend aussi, genre, parce que maintenant, en perf technique, t'as la phase testing aussi qui peut être plus ou moins longue. Si tu veux tester avec des athlètes pro, il faut que tu trouves, genre, quand est-ce qu'eux ils sont dispo, quel est leur calendrier. Bah,
c'était le cas pour la paire de Messi, par exemple.
Là, tu sollicites pas de pro, parce que tu fais de la perf. Mais est-ce que c'est en collaboration avec des sportifs? T'as leur avis quand même sur le.
Ça dépend, genre là je me mets en tennis et on travaille genre avec des pros.
Okay.
Ouais, ils testent les choses.
Si t'allais à 10-0, tu sais, c'est vrai, ils ont les feedbacks, ils vont au Kenya, même pour voir. Mais après, le consommateur sur le cash race, c'était genre nous tous les jours qui courent, donc tu vas demander ta personne qui court, qui a peut-être moins de connaissances, mais où tu reçois le feeling.
D'accord, ouais.
Est-ce que ça fit? Est-ce que t'as des douleurs? Est-ce que.
Donc premier impact, je vais commencer à conclure parce qu'il est 55, Planet Racing va arriver bientôt. On a parlé un peu du maker au curateur, donc tu vas pouvoir t'aider avec l'IA en fait à éviter le syndrome de la page blanche. Et ça, ça peut t'aider et ça peut te permettre aussi de partir sur l'un ou l'autre thème. Premier point, tu confirmes. Deuxième point, peut-être c'est cette IA générative qui va te permettre d'avoir un rendu visuel beaucoup plus proche de ton premier sketch et te rendre compte tout de suite si t'es dans la bonne direction.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bien résumé.
Bien résumé. J'ai pas fait tout seul. Hein. Et enfin, est-ce qu'on s'attend à un grand remplacement du design et du designer par l'IA?
Je crois pas, parce que le feeling... Il n'y a pas le feeling dans l'IA.
Exactement.
Il faut quand même que tu aies ton coup de crayon.
Et ben c'est même l'IA qui me l'a dit. Parce qu'on l'a testé là-dessus, bien sûr. Elle a dit, ben non, va survivre le designer humain. Parce qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas capable d'avoir justement les inputs que tu as. Et surtout d'avoir ce côté culturel lié à la basket, lié à l'histoire d'une marque, lié à ce qu'on est d'humain, à une émotion que toi, tu vas pouvoir traduire dans l'IA. Tu voulais réagir,
mais... Enfin, les influences, c'est un peu le même truc, hein. Ton IA, elle va se baser sur des trucs purement mathématiques. Toi, ça va être du feeling. Tu peux avoir, on va dire, les mêmes inputs, sauf que, selon le contexte, ton influence va faire que tu as plus accès sur telle ou telle chose, alors que l'IA, elle va tout équilibrer si tu lui dis ce qu'elle doit faire. Mais encore une fois, elle n'a pas la sensibilité de comprendre à quel moment ça va toucher réellement les gens.
Exactement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que demain, être designer... sans du tout savoir toucher un de ces outils, ça va être compliqué.
Ouais, mais il faut aussi savoir aussi travailler sans.
En fait,
je pense, être
le jour du blackout,
faut être ouvert d'esprit. Et faut avancer avec la technologie.
Ouais, ça fait partie du truc.
Ça c'est bien que tu parles de ça parce que je me demandais, on dit faut apprendre à travailler sans, ok. Mais est-ce que c'est pas la même chose avec les ordinateurs? Est-ce que tu as appris à travailler sans ordinateur pour designer ou un truc comme ça? Parce que c'est la même chose, c'est aussi si ton ordinateur il lâche et tout, est-ce que tu dois faire tout ton dessin à la main? Tu vois ce que je veux dire?
Faut que tu parles dans le micro. Il est là.
Ah, non, je pense que. Attends, t'as dit tellement de trucs que j'ai oublié maintenant.
Mais il faut qu'on conclue, Gis.
Tout ce que je voulais dire, c'est juste, oui, je pense qu'il faut apprendre à travailler sans l'IA, parce que comme un ordinateur, ça reste juste un outil, et le jour
ça
où
va
on
pas
en
tout
a
remplacer.
Plus, il faudra bien faire sans, quoi.
Mais ça a bien fait évoluer le travail de Pauline. Merci beaucoup, Pauline. Et dernier aspect...
Merci, Pauline.
Dernier aspect, dans la lutte contre les fakes, ça pourrait être un super outil, parce qu'aujourd'hui, on va être capable de mettre des points très précis, comme une empreinte spécifique sur chaque chaussure, pour être sûr, et l'IA pourra valider ou pas la spécificité de ce modèle. Il est 20h59, il y en a qui vont aller mater du foot, d'autres Koh-Lanta, il y a plein de trucs ce soir, mais surtout, vous, auditeurs, vous allez rester écouter Planet Racing après ce magnifique 3-1 du Racing ce week-end.
Allez, Racing !
Place à Planet Racing, on se retrouve la semaine prochaine, rendez-vous 20h-21h. C'était Sneakers Empire
dans tes oreilles.
RBS 91.9.